Merci Mélisse, à demain.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et à tous, la compagnie des auteurs, épisode 4 de cette série consacrée à Flannery O'Connor, une émission proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Laurence Millet et Chloé Kaczmarek, avec aujourd'hui à la console Pierrick Monsigny. C'est une vie très courte que celle de Flannery O'Connor, née en 1925 et disparue des suites d'un lupus érythémateux à l'âge de 39 ans après avoir lutté 15 années contre la maladie, mais sans jamais cesser d'écrire. Elle a vécu toute sa vie ou presque aux côtés de sa mère et au milieu des gallinacés, animaux grotesques qu'elle aimait tellement et en partie pour cette raison. De tout cela, Cécilia Duterre nous a parlé lundi et vous pouvez retrouver ce numéro en podcast. On doit deux romans à Flannery O'Connor, La sagesse dans le sang ainsi que Et ce sont les violents qui l'emportent, mais aussi et peut-être surtout des dizaines de nouvelles. Geneviève Brisac, qui a consacré Chez l'Olivier un essai biographique à la romancière, nous en a parlé hier et mardi il n'y a pas eu d'émission, ce qui nous mène à aujourd'hui. Aujourd'hui, un numéro en deux parties avec deux manières d'appréhender Flannery O'Connor. Après la chronique d'Olivier Barbaran, je recevrai Jean Rollin qui est allé voir la Géorgie natale de l'écrivain dans le sillage d'une cinéaste qui réalisait un film sur elle. Et pour commencer, je reçois Guy Goffet qui a préfacé ses œuvres complètes dans l'édition Quarto chez Gallimard. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Une femme assez étrange physiquement. Les remèdes qu'on lui donnait pour cette maladie qui l'a emportée, qui était une forme de lupus des articulations et qui l'avait complètement réduite à peu près à l'immobilité, oui. Elle arrivait tout de même à marcher.
Et sur qui avait déformé aussi son corps.
Oui, en plus on lui donnait des remèdes qui lui donnaient une certaine bouffissure du visage. Mais elle avait une expression extrêmement agréable malgré cela, des yeux pétillants d'esprit. Et un caractère d'une gentillesse extraordinaire.
Une description du physique étrange, disait Maurice Edgar Coindreau de Flannery O'Connor en guise d'introduction à cette émission. Bonjour Guy Goffet.
Bonjour.
Alors vous avez fait un peu tous les métiers, hein, professeur, libraire, éditeur, lecteur même chez Gallimard. Vous avez aussi beaucoup voyagé, la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie, le Québec, la Roumanie entre autres. Et vous me faites signe qu'il y en a encore beaucoup d'autres.
Oui.
Lequel de ces pays vous a le plus touché?
De tous les pays que j'ai... Ouf. Je sais pas, la Sibérie.
La Sibérie,
oui.
Bon, c'est vrai que c'est un pays assez touchant, on l'imagine. Vous écrivez des récits, des essais, des romans et aussi des poèmes, comme par exemple « Les petits riens pour jours absolus », publié en 2016 dans la collection Blanche chez Gallimard. Et l'absolu, justement, c'est peut-être ce que vous recherchez, pour reprendre le titre de ce recueil, ce que vous recherchez et ce que vous aimez chez l'auteur qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire Flannery O'Connor.
Oui. Chez Flannery O'Connor, comme vous savez, qui avait une foi ardente, qui était pratiquante, mais pas bigote pour deux sous. Elle était plutôt très ironique, elle savait se moquer de la religion, etc. Elle était un petit peu théologienne, d'ailleurs, si elle n'avait pas été romancière, peut-être l'aurait-elle été. Au point, elle lisait énormément de livres de théologie, elle lisait saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, etc.
Ça, c'est votre intuition ou il y a quelque chose dans les textes?
Ah non, bien sûr.
Qu'elle aurait pu chacun être théologienne.
De ses textes, ou chacune de ses nouvelles est comment vais-je dire, soulevée par la grâce, ou emportée par la grâce. Et il se trouve que moi, je suis croyant aussi. Voilà, je suis croyant pour peut-être pas, je suis pas un grand converti. Voilà, ça a toujours été comme ça. Je me suis battu contre cela.
Vous êtes battu contre cela ?
Oui, bien sûr. On se bat contre ça. Vous savez, quand on a, j'ai eu une enfance un peu difficile. J'ai été placé dans des institutions religieuses. Les religieux n'en sortent pas grandis en général. Mm-hmm. Si nous-mêmes nous sommes expiègles ou un peu dérangeants, leur façon d'être ou leur façon d'affirmer leur foi, voilà, vous bouleverse, vous renverse. Moi, j'ai refusé tout. Mm-hmm. Voilà. Mais je pense que dans mes textes, les choses paraissent de la même manière aussi, discrètement, beaucoup plus discrètement que chez Flannery. Flannery n'élude aucune des dimensions de l'âme humaine. Voilà.
Alors la grâce, vous avez prononcé ce mot et c'est logique car le titre que vous avez donné à votre préface, c'est précisément la puissance et la grâce. Alors on pense à ce roman de Graham Greene qui s'appelle La puissance et la gloire, qui est un autre roman d'un grand chrétien. Est-ce que vous y avez pensé aussi ?
Sans doute j'ai pensé, sans doute ça m'a effleuré, bien sûr, le titre j'ai joué dessus, voilà, tout banalement. Pour moi c'est quelque chose de très important la grâce, et comment elle paraît chez elle, dans ses nouvelles en particulier. On oublie un peu tous ces prophètes, etc., des romans, et on passe à des gens simples qui sont, je pense à la première nouvelle des braves gens ne courent pas les rues. Cette vieille personne, cette vieille grand-mère qui se voit, bon, qui suit toute la famille, la famille va se faire massacrer, la vieille grand-mère.
Enfin, toute la famille, disons qu'elle l'emmène aussi toute la famille se faire massacrer.
Elle l'emmène toute la famille. Oui, elle l'emmène, elle les emmène parce que ça vous pouvez pas résister à une sorte d'attraction. Voilà. On ne sait pas, nous sommes dirigés quand même d'une certaine manière, bien que je ne crois pas au déterminisme. Alors, pas plus que Flannery d'ailleurs.
Donc il y a la grâce et puis il y a la puissance.
Alors, non, la grâce n'intervient pas à ce moment-là. Elle intervient quand elle reconnaît dans ce tueur, qu'on appelle le désaccès, je crois que c'est le titre de la nouvelle, elle reconnaît dans ce tueur un de ses enfants. Mm-hmm. Elle le place au même niveau que ses propres enfants.
Mais en même
qui
temps,
viennent de mourir.
Voilà, ses propres enfants. Parce
et elle
que,
meurt quand
parce
même.
Que c'est finalement, on peut pas rentrer trop dans le détail, mais c'est à cause de la grand-mère finalement que toute la famille meurt et qu'elle va mourir aussi. Oui. Et elle place quand même le désaccès au niveau de ses propres enfants. C'est ça la grâce ? C'est le pardon ? C'est quoi ?
Écoutez, je ne sais pas ce que c'est que la grâce, moi. Mais je sais que sans la grâce, on ne peut rien faire.
Je propose d'écouter un extrait, justement, de cette nouvelle dont on parlait à l'instant.
Seule avec le désaccès, la grand-mère s'aperçut qu'elle n'avait plus de voix. Le ciel était vide de tout nuage et le soleil avait disparu. Autour d'elle, il n'y avait que des bois. Elle voulait la jurer de prier. Elle ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois avant qu'aucun son sortît. Finalement, elle se surprit à dire « Jésus ». Dans son esprit, cela signifiait « Jésus vous aidera ». Mais à la manière dont elle prononça le mot, on eût pu le prendre pour un juron. « Oui, madame ?» acquiesça-t-il. « Jésus a tout chamboulé. Lui et moi, c'est la même histoire. Sauf que lui n'avait pas commis de crime. Et qu'ils ont pu prouver que j'en avais commis un, parce qu'ils avaient ce dossier sur mon compte. Bien sûr. » Ils me l'ont jamais montré. C'est pourquoi que maintenant, je laisse ma signature. Il y a longtemps que je me disais, trouve-toi une signature. Signe tout ce que tu fais et prends-en note. Comme ça, on sait ce qu'on fait. On peut comparer le crime et la punition et voir si ça colle. Et à la fin du compte, on a quelque chose pour prouver qu'on n'a pas été juste avec vous. Si j'ai pris ce nom de désaccès, dit-il. C'est parce que j'arrive pas à faire tenir en équilibre sur cette balance qui est faussée, le mal que j'ai fait et les punitions que j'ai ramassées. Il y eut un cri perçant dans le bois. Puis, presque aussitôt, une détonation.
« La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Flannery O'Connor avec Guy Goffet. C'est peut-être parce que justement la grâce est toujours possible chez Flannery O'Connor que aucun de ses livres, aucune de ses nouvelles, même si elles sont très difficiles, très dures, elles ne sont pas désespérées. Est-ce que vous pensez que c'est cela aussi la raison?
Vous me posez des colles, c'est très difficile de vous répondre comme ça. Je sais que, par exemple, pour ce qui concerne mon propre travail, d'ailleurs tous ici, tous ont la grâce d'une certaine manière dans l'écriture, celle de Jean Rollin en tout cas, il y a la grâce, il dit d'ailleurs, il emploie ce mot. Donc entre ce sens-là, avoir quelque chose de gracieux, etc., et la grâce divine, puisqu'il s'agit de divine, d'une grâce qui intervient à un moment donné, je crois que sans la grâce, on est désespéré, vraiment. Sans cette grâce-là, il faut avoir été dans un état comateux, ou dans un état, pas comateux, dans un état à l'agonie, pour savoir ce que c'est que la grâce à ce moment-là.
D'où peut-être la violence, justement, des textes de Flannery O'Connor.
Oui, ça, la violence dans ces textes, c'est simplement parce que c'est une technique aussi, c'est une technique romanesque chez elle, ou de novelliste. Elle sait dans quel monde elle vit. Elle sait qu'elle vit dans un monde, où on ne croit plus à ces choses-là.
Voilà. Alors parlons peut-être un petit peu.
Donc elle a besoin de forcer le trait.
Ouais. De vous et de Flannery O'Connor et de la manière dont vous avez découvert, parce que c'est une histoire aussi que vous racontez dans la préface des œuvres complètes de Flannery O'Connor dans la collection Quarto. Quel a été votre premier contact avec Flannery O'Connor? Guy Goffet.
Eh bien, vous savez que je vivais à la campagne, c'était très difficile.
Alors, dans quelle campagne, il faut le préciser?
Cette campagne de Lorraine belge, donc juste à la frontière de
la Meuse. Autrefois française et devenue belge.
Voilà. Et je vivais dans un milieu paysan, un milieu qui ressemble d'ailleurs un peu au milieu de Flannery O'Connor, d'une certaine manière.
De quelle manière?
C'est un milieu de gens simples, pas du tout instruits, la plupart. Voilà. Et puis ce sont des élites, il y a toujours des élites. Et je travaillais manuellement, avec un père très difficile. Et pour échapper, pour pouvoir lire, c'était une affaire dramatique chez moi. Il fallait chercher.
On n'acceptait pas que vous lisiez ?
Non, je ne pouvais pas lire. Les livres sont faits pour des gens qui n'ont rien à faire, disait mon père, tout simplement. Donc je me cachais. Alors pour acheter un livre, il fallait de l'argent, je ne l'avais pas. Mais j'avais réussi quelques petites choses. Je ne vous dirai pas d'où provenait l'argent, parce que ça me mettrait très mal avec le péché.
Mm-hmm. Et avec la police belge. Mais un jour,
pas du tout, pas du tout. Mais c'est le livre que j'ai acheté. J'ai vidé vraiment tout ce que j'avais, toutes mes poches.
Et pourquoi ce livre-là? Alors, donc vous allez à la librairie.
Ce livre-là.
Et pourquoi ce livre en particulier?
Oui, c'était pas un livre très joli. Hein. C'était un livre de la collection. C'était la collection blanche. Normalement, il n'était pas attirant pour un jeune nécessairement. Hein, d'habitude. On aime bien les images. Et le livre de poche, il n'était pas encore publié en livre de poche. Je crois qu'il n'a été publié qu'en folio.
Donc c'est le titre alors qui vous a attrapé?
Le titre m'a attrapé parce que je sais que chez moi, les braves gens ne courent pas les rues. Mm-hmm. Mais j'imagine qu'à Paris, c'est pareil, dans n'importe quel quartier. Les braves gens ne courent pas les rues. Non. Voilà. C'est pas un jugement. D'ailleurs, le titre anglais est différent quand même. A good man is hard to find. Un homme bon est difficile à trouver. Ou un homme bon est difficile à trouver.
Donc vous ramenez ce livre à la maison et puis...
Je ne le rapporte pas à la maison, je le cachais dans la grange, je le cachais dans la remise. Non. Et il fallait que j'échappe à tous les travaux pour lire ça. Mais je me rappelle que je devais rentrer du bois. Parce qu'on rentrait du bois, des stères de bois pour se chauffer. Et que c'était un travail assez tuant. Et j'ai fait ça avec une vitesse pour pouvoir m'enfuir dans la grange et pouvoir lire les nouvelles de Flannery O'Connor. Et je les ai lues, je crois, tous les ans. Et
vous
je
les
cochais.
Avez lues 19 fois.
Je faisais des coches. Oui, je cochais.
C'est vrai, 19 fois, à ce point-là?
Je les ai lues 19 fois, je les connais par cœur.
Elle ne se préoccupait pas beaucoup de l'opinion publique.
Oui.
Elle écrivait les choses qu'elle sentait, elle les écrivait comme elle les sentait. Or, elle était extrêmement pieuse, mais pas du tout bigote.
Oui.
Elle avait une religion assez dure, assez inflexible, je crois, et elle était surtout convaincue de la totale absurdité et méchanceté de l'espèce humaine. Le mystère qui la séduisait le plus dans la religion catholique, c'était le mystère de la rédemption. Alors sans la rédemption, l'être humain n'est qu'une espèce de grotesque, méchant, et elle les montrait ainsi.
L'origine irlandaise et l'imprégnation catholique de l'auteur avaient mis le point avant tout sur le mal dans le monde, c'est-à-dire sur le péché originel. La nature humaine était frappée du péché. Évidemment, quand on considère l'œuvre d'un Beckett, pour lui, le péché n'existe pas, il ne reste que l'absurdité et le mal de l'espèce humaine et de la vie. Mais pour Flannery O'Connor, c'est un mal qui a été racheté, en quelque sorte. Enfin, ça, elle y croyait fermement.
Ah oui, elle croyait qu'il pouvait être racheté, en tout cas.
Oui, mais ce qu'elle voyait ne
et
lui
alors,
donnait
évidemment,
pas confiance.
Dans son idée, le fait de montrer l'humanité telle qu'elle l'a montrée n'en faisait que mieux voir la magnificence de Dieu qui arrivait à sauver.
Oui, ce qui nous frappe surtout dans cette peinture très dure, c'est l'accent mis également sur un petit monde provincial, de campagne, des êtres abattardis, soit par la maladie, soit par le vice, soit par les habitudes mauvaises. C'est un monde assez hideux tout de même qu'elle nous montre.
Oui, c'est un monde qu'elle connaissait, parce qu'elle habitait tout de même dans une petite ville, où il y avait tous ces fermiers, tous ces petits bourgeois, toutes ces personnes habillées d'une façon plus ou moins burlesque en croyant être très élégantes et qui quelquefois avaient de la fortune et se croyaient par suite appartenant à une vieille aristocratie, ce qui n'était pas le cas. Et alors elle s'en amusait comme
tout le ridicule
comme
d'une
de
société.
Pente, tout le ridicule d'une société.
Oui.
Et elle était impitoyable.
Maurice Edgar Coindreau qui répondait aux questions de Roger Vrigny dans cette archive de 1969. Guy Goffet, c'est donc bien la question du mal, question religieuse s'il en est, qui est, et vous le disiez, au cœur des textes de Flannery O'Connor, la violence, la rédemption, le mal, et finalement le mal qui permet de sortir de soi-même.
Nous savons tous que nous n'habitons plus dans le paradis terrestre. C'est fini,
ah
tout
bon
ça.
Ah bon? Donc c'était.
Le paradis n'existe plus.
Ah, le paradis existait, d'accord.
Non, on peut le penser.
Ouais.
On peut le penser. En tout cas, elle le croit. Voilà, je suis un homme qui doute plutôt. Mais elle croit vraiment que le paradis, c'est fini. Donc les gens qui sont là, sont tous des imparfaits.
Alors on peut parler des personnages.
Et comme ils sont des imparfaits, la plupart sont des salauds. D'ailleurs, ça sert beaucoup les romanciers. On ne voit pas beaucoup de personnages dans les romans qui sont des personnages entièrement sympathiques. Bon,
justement,
agréable. Guy Goffet,
j'avais envie que vous nous parliez un petit peu des personnages de Flannery O'Connor. Quoi, c'est des cinglés d'abord.
Non, je pense que c'est des gens ordinaires, vraiment. Des gens ordinaires. Il y a des cinglés aussi. Le Tardwater et des gens comme ça, là, tous les gens des romans, par exemple, en particulier, qui sont une espèce de prophètes, comme il en existe aux États-Unis. Et un peu
des
partout, d'ailleurs, quelques fous, ça existe. Des fous, des cinglés. Mais dans la plupart de ces nouvelles, ce sont des gens tout simples, qui ressemblent en général à des personnages qu'elle a connus et que moi j'ai connus aussi, qu'on rencontre dans des villages et dans les villes.
Vous avez connu quelqu'un comme Tarwater qui baptise des petits-enfants et en les baptisant les noix?
Non, c'est-à-dire
que c'est un peu
fort.
Dans la Lorraine belge.
C'est un peu fort, non. Mais vous savez, il s'en passe tous les jours des fameuses, tous les jours. Il suffit de regarder, de suivre, vous regardez les informations locales et vous verrez les gens, ce qu'ils sont capables de faire. Une mère qui tue ses enfants à la hache, bon, ça existe, ça vient de se passer. On oublie tout ça parce qu'il y en a tellement On ne les connaît pas tous. Oui. Et c'est ça l'humanité.
Oui, les braves gens ne courent pas les rues. Ça,
c'est ça l'humanité.
Donc, Tarwater, il y a l'autre personnage aussi qui a cette caractéristique, c'est Hazel Mautz. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce personnage, nous dire qui il est? C'est dans son roman La Sagesse dans le sang.
Oui, alors La Sagesse dans le sang, attendez, parce que vous me redemandez. Alors, la Sagesse dans le sang, c'est lui qui se brûle les yeux à la fin avec de la chaux.
Exactement.
Avec de la chaux.
Pourquoi fait-il ça? Racontez-nous.
Je ne sais plus bien l'histoire, je dois dire, hein.
C'est alors, parce qu'il a fondé une église.
Oui, il a fondé une église sans le Christ.
Et il se brûle les yeux pour prouver qu'il a
raison. Il fonde une église sans le Christ, il s'aperçoit que ce n'est pas ça, ça ne marche pas. Et voilà, vous venez de le dire, de toute façon, je ne fais que répéter ce que vous dites là.
Quand même un beau retour des choses, Guy Goffet, ce livre que vous avez acheté quand vous étiez adolescent et aujourd'hui, il y a quelques années, c'est vous qui en faites la préface dans cette très belle édition Quarto chez Gallimard. On peut peut-être parler un petit peu justement de l'édition en elle-même, en commençant par la photo sur la couverture, photo de Flannery O'Connor qui est très belle, qui n'est pas tellement comme les autres
c'est
photos.
Pas Flannery O'Connor, hein. Alors, c'est pas Flannery O'Connor.
Dites-nous.
Bon, c'est une jeune femme. Voilà, une jeune femme.
C'est un personnage alors
Je crois que c'est un personnage, oui, banal.
D'accord, c'est une photo.
On ne peut pas dire qu'elle est particulièrement belle, ni particulièrement laide.
Ah oui, parce que c'est drôle, parce que j'allais vous dire, elle ne ressemble pas tellement à cette photo de Flannery.
Non, pas du tout, pas du tout. Elle ne ressemble pas à Flannery. Et c'est bien d'ailleurs d'avoir choisi ça, une femme. Ouais. Parce que Flannery, ce qu'il y a aussi. Flannery ne s'est jamais flattée d'être ou n'a jamais annoncé qu'elle était une féministe, etc. Or, elle est un personnage de femme, quand même, extrêmement fort. Fort, comme on en voit très peu. C'est quelqu'un qui, dans cette maladie, devant cette maladie, dans l'adversité, montre un courage sans faille. Mm-hmm. Je ne vois pas beaucoup de gens. Enfin, moi, je sais qu'il vient de m'arriver quelque chose, mais je sais que aussi, on se décourage facilement. Elle ne se décourage pas. Or, elle souffre. On l'a dit tout à l'heure. J'ai cru l'entendre qu'à chaque fois qu'on ajoutait des médicaments ou à son programme de traitement. Elle s'affaiblissait d'un côté ou de l'autre. Ses os se dégradaient, elle perdait les mâchoires. Or, elle continuait, avec ses mâchoires brinque-ballantes, à faire des conférences. Elle qui déjà n'avait pas... on comprenait déjà pas ce qu'elle disait. Elle avait un accent épouvantable, un accent du Sud. Nasillard, je crois qu'on l'a comparé à Donald Duck, une de ses amies.
Et donc, dans cette édition, alors il y a quand même des photos d'elle. Hein.
Ah, il y a des belles photos d'elle. Moi, je la trouve belle, particulièrement gracieuse. Je ne sais plus qui a dit. Ah, je crois que c'est Gabriel Rolin qui avait fait la préface de Habit of Being, l'habitude d'être, et qui l'a rencontrée, elle, alors qu'elle était déjà malade pendant son voyage en Europe. Et qu'il l'a, elle était boursouflée, etc. Et pourtant, elle était belle, il suffisait de regarder ses yeux, cette lucidité et ce visage souriant dans la douleur.
Merci beaucoup, Guy Goffet. Je renvoie nos auditeurs donc à votre édition des œuvres complètes de Flannery O'Connor dans la collection Quarto chez Gallimard. On parlait de photos à l'instant, nous allons parler bientôt de films avec Jean Rollin qui est allé sur les traces de Flannery O'Connor avec une amie cinéaste qu'il appelle Kate dans un récit qu'il en a fait et qu'il a sobrement intitulé Savannah, publié en 2015 aux éditions POL. Mais tout de suite, eh bien, comme chaque jeudi, c'est le moment de la chronique du jeudi.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Chronique du jeudi que nous offre chaque semaine un grand lecteur, d'abord pour donner un point de vue sur l'auteur dont nous parlons toute la semaine et ensuite pour nous proposer une actualité de son choix. Aujourd'hui, c'est un poète et un professeur aussi, Olivier Barbaran, qui vient nous donner son point de vue, son regard sur Flannery O'Connor. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors l'œuvre de Flannery O'Connor, à quel point êtes-vous très familier avec elle ?
J'en suis familier pour l'avoir lu assez tôt, là aussi, et pour avoir, j'écoutais Guy Goffet avec intérêt, avoir aussi relu Flannery O'Connor lorsque j'ai été muté dans la Picardie la plus profonde, avec l'impression d'avoir les personnages de Flannery O'Connor autour de moi. Un mélange de misère et de souffrance aussi. Je crois que ce qui me touche beaucoup chez elle, c'est que elle dépeint des monstres, sans doute, vous avez insisté là-dessus, mais c'est une sorte de compassion, de charité, pour reprendre un mot chrétien, qui pour moi nimbe la totalité des personnages et fait qu'ils ne sont pas jugés. Ils n'ont pas à être jugés, ils sont posés là, et ils nous atteignent d'autant plus que je trouve qu'ils sont posés avec leur brutalité, avec aussi leur mystère, avec leur profondeur. Et je préfère de beaucoup, peut-être parce que je suis un mauvais lecteur de romans, mais je préfère de beaucoup les nouvelles. Et j'avais envie de vous parler simplement d'une nouvelle qui pour moi a une dimension presque d'art poétique, en tout cas telle que je la comprends. Je ne sais pas si c'est un art poétique pour elle, qui est Le Fleuve, dans le même recueil.
Les braves gens ne courent pas les rues.
Les braves gens ne courent pas les rues. L'histoire est assez simple. Un petit garçon, un matin, est emporté par une dame, avec l'autorisation de ses parents, qui l'emmène pour un dimanche. Les parents sont assez contents, je crois, de s'en débarrasser. Ils font la fête chez eux. Ils sont d'un autre milieu, un peu supérieur à celui de la dame. La dame l'emmène en autobus. C'est un très long voyage. Le pose chez elle parce qu'elle a l'intention de l'emmener voir quelqu'un qui baptise et qui prêche auprès du fleuve. Cette histoire est très simple. Elle tourne à la tragédie parce que cet enfant qui découvre, qui est initié d'une certaine façon, mais avec son regard enfantin, et on voit bien qu'à la fois il est touché, il ne comprend rien, et en même temps nous non plus, nous ne comprenons rien, retournera le lendemain au fleuve, décidera de se baptiser lui-même, et mourra noyé. L'effet produit par l'initiation à la religion qui n'était pas tellement maîtrisée ni pratiquée dans son milieu, se solde par une tragédie. Ce qui me paraît très très fort, c'est qu'il n'y a là aucun prêchi-prêcha, hein, bien entendu, de la part de Flannery O'Connor.
Et même une détestation pour le prêchi-prêcha.
Et un mystère en même temps. C'est-à-dire que je ne sais toujours pas s'il est tragique pour cet enfant, sans doute, dans le malentendu des perceptions confuses qui étaient les siennes, d'avoir fini par se noyer, ou si dans cet enfoncement dans les profondeurs de l'eau, il n'y a pas là quelque chose comme l'apparition d'une nouvelle dimension que l'agnostique que je suis atteint parfaitement dans les textes de Flannery O'Connor, qu'il ne faudrait pas réserver à ceux qui partagent sa foi. Et parvenir à dire cette profondeur de l'âme humaine, à peindre une enfance sans la moindre mièvrerie, à cerner des traits avec autant de force et d'intensité, mais en même temps de simplicité apparente du trait, est évidemment pour moi absolument bouleversant.
Guy Goffet, c'est une autre manière de mettre des mots sur ce que vous ressentez.
Oui, je crois. Elle est éminemment poète, sans avoir écrit jamais un seul vers.
Absolument.
Vous l'avez découvert jeune?
Oui, je l'ai lu adolescent. Je l'ai lu adolescent avec le sentiment que, comme souvent d'ailleurs, le fait qu'elle soit une femme n'est pas négligeable par rapport à d'autres grands romancier ou écrivain américain de ce même Ouest, par rapport à des gens qu'on me vantait comme beaucoup plus importants. Je me sentais dans une relation de plus grande intimité avec elle qu'avec un Faulkner, par exemple. Peut-être en raison justement de la ce que Guy appelle la grâce, de la délicatesse du trait et du côté où le grotesque n'est jamais grimaçant. Voilà. C'est un grotesque triste que je trouve beaucoup plus mélancolique et beaucoup plus beau.
Alors votre actualité concerne un enthousiasme, il s'agit d'une traduction d'un livre qui s'appelle « De la neige » ou « Descartes en Allemagne ». L'auteur s'appelle Durs Grünbein.
En
voilà,
effet.
Je vais vous demander si je le prononçais correctement, la réponse est non. C'est aux éditions Grège.
Oui, la partie n'est pas forcément facile. Si je vous dis qu'il s'agit de 3000 vers, traduits de l'allemand, consacrés à un philosophe dans une poésie qui tente de rendre compte du séjour de jeunesse d'abord de Descartes dans l'hiver 1619 en Allemagne, et qui nous conduira, ce texte nous conduira avec ces 3000 vers, cette sorte d'épopée mentale, jusqu'à la mort de Descartes. Même les auditeurs de France Culture pourraient être inquiets, d'autant qu'on dit souvent que l'accès à la poésie en langue étrangère n'est pas toujours facile. Pourtant, Il y a là une œuvre que je crois absolument nécessaire, que je pense indispensable, et qui est, à mes yeux, ce que j'ai lu de plus fort et de plus grand en poésie depuis très longtemps, et je lis de très belles choses en poésie. Pour quelle raison? Parce que Durst Grünbein, donc, qui est né en 62 en RDA, qui est reconnu en Allemagne, hein, et qui commence, je l'espère, à l'être en France, puisqu'il a reçu le prix Büchner des mains même d'Heiner Müller, c'est tout de même une autorité, est un auteur qui fait de la poésie et qui la place à des endroits où on ne l'attend pas forcément. Ici, tous les pièges sont évités d'un témoignage historique trop documenté, d'une poésie nimbée d'érudition ou d'une poésie philosophique. Ce sont véritablement les gestes mentaux et existentiels, la vie quotidienne et la pensée à l'œuvre de Descartes, qui est face à un paysage bloqué par la neige, mystérieux d'être recouvert par la neige, qui est saisi d'ailleurs avec la force de trait d'un peintre, et qui se pose des questions. Par ailleurs, vient animer le texte la présence d'un valet, Gillot, et les débats de Descartes avec Gillot évoque parfois pour nous ou ceux des maîtres et des valets dans la comédie ou parfois aussi ceux de Vladimir Extragon. On est donc là au plus près de la pensée cartésienne pour laquelle je suis certain que l'intellectuel qui est aussi Durst Grünbein s'est beaucoup documenté, mais ce n'est pas mon objet. Mais on est aussi devant un paysage dans un moment historique précis qui fait qu'au moment du dégel, on voit aussi apparaître les traces de la guerre. Et on a une pensée confrontée à l'énigme du monde qui se révèle dans son rapport aux objets, dans son rapport à la chair, dans son rapport à l'histoire et dans son rapport à la mort. Dernier point, cette poésie fait poésie en français. Alors je voudrais saluer les traducteurs, François-David Schaumann et Joël Vincent. Ne pratiquant pas l'allemand, je suis incapable de dire si la traduction est fidèle, mais la question n'est pas là. La traduction fait poème en français. Je vous en donne un seul exemple. Au moment où la neige se retire et où Descartes, affronté au problème du mal, voit apparaître soudain les restes de la guerre que la neige aurait recouvert, nous avons ces vers en français. « Un os craque, un tas d'eau épars crisse bruyamment sous les pas ». Entendre la neige crisser, voir surgir les eaux dans leur violence, à travers une traduction, peu importe la fidélité immédiate au texte, l'effet est produit, et nous sommes devant un texte absolument nécessaire, puisque quiconque a été confronté à l'effort de la pensée, quiconque s'est posé la question de savoir ce qu'il faisait devant un monde qui scintille et qui est mystérieux, a nécessité, je crois, véritable de lire ce texte. J'en donne deux autres exemples de réussite absolue pour moi. On voit l'intelligence extraordinaire, suraiguë de Descartes, essayer de saisir le mouvement même de sa propre pensée. On assiste ainsi à une sorte de capture, de chasse aux papillons, mais des papillons très fugitifs, qu'il va aller clouer. Et là, le texte nous dit, c'est une idée qu'il faut laisser frétiller sur la feuille. Ce frétiller est absolument génial. Hein, comment piquer quelque chose et en même temps montrer qu'elle est encore dynamique, encore vivante. Et c'est cette vivacité dans une pensée qui paraît un peu aride, mais qui est ici restituée comme un enjeu existentiel qui serait le nôtre, qui me paraît rendre cette lecture indispensable.
Et on le voit dans votre œil qui frétille aussi, absolument. Olivier Barbaran. Rappelons le titre.
Durst Grünbein, de la neige ou Descartes en Allemagne.
Merci Olivier. C'est la suite et malheureusement bientôt la fin de la compagnie des auteurs consacrée depuis lundi à Flannery O'Connor avec à présent l'écrivain Jean Rollin. Pour se remettre Flannery dans l'oreille, je vous propose un extrait de sa nouvelle Miss Greenleaf, lue par Sylvie Balul.
Mrs. Greenleaf était une grosse dondon doublée d'une souillon. Elle avait transformé la cour de sa maison en un dépôt d'ordures et ses cinq filles étaient toujours d'une saleté repoussante. Toutes prisaient, y compris la plus jeune. Au lieu de planter quelques légumes ou de faire la lessive, elle ne s'intéressait qu'à ce qu'elle dénommait ses guérison par la prière. Chaque jour, elle découpait dans le journal tous les récits malsains, viols, enfants brûlés vifs, déraillements, catastrophes aériennes et divorces de stars. Elle se rendait dans les bois, creusait un trou, y enterrait les coupures de journal, puis se couchait dessus et marmonnait et gémissait pendant une heure peut-être en implorant le ciel de ses énormes bras, en les enfouissant sous elle pour les brandir encore. Finalement, elle restait à plat ventre dans une immobilité si totale que Mrs. May la soupçonnait de s'endormir dans cette posture.
Et bonjour Jean Rollin.
Bonjour.
Alors vous avez publié, on le sait, de nombreux reportages ou articles dans différents journaux, notamment entre 1980 et 2005, que vous aviez rassemblé dans un gros volume sous le titre « L'homme qui a vu l'ours ». C'était aux éditions POL, où vous publiez la plupart de vos récits, comme l'an dernier, en 2016. Peleliu, je ne sais pas si je le prononce...
Peleliu.
Correctement, Peleliu, comme l'île de Peleliu dans l'archipel des...
Palau,
voilà. Ou aussi, alors comme vous avez publié en 2015, le livre qui vous amène aujourd'hui à la compagnie des auteurs, Savannah, du nom de la ville natale de Flannery O'Connor. Alors vous êtes allé deux fois dans cette ville, Jean Rollin, une première fois en 2007, avec votre amie Kate, caméra au point, vous allez nous raconter tout ça, et une seconde fois en 2014, puisque tristement, Kate... la cinéaste que vous accompagnez avait disparu. Alors, peut-être commencer par l'évocation de ce personnage qui est évidemment le personnage principal de votre livre, Kate. Elle avait envisagé de faire ce film sur Flannery O'Connor et c'est comme ça que vous êtes parti avec elle.
Oui, oui, parfaitement, oui. Enfin, Kate, il s'agit de Kate Barry. Elle n'était pas à proprement parler cinéaste, elle était, c'était une photographe, à mon avis une grande photographe. Je signale d'ailleurs au passage qu'il y a encore, il y a une exposition qui lui est consacrée, enfin qui est consacrée à un aspect peu connu de son travail, qui est toujours visible à Arles, dans l'abbaye de Montmajour, donc l'exposition est toujours en cours. Donc Kate était photographe et par ailleurs elle avait pris l'habitude à ce moment-là, comme je le dis d'ailleurs dans les premières pages du livre, de filmer, mais elle filmait avec autant que je me souvienne, avec un appareil photographique, un petit appareil photographique, et elle filmait surtout beaucoup le sol, des choses qui étaient au sol, donc on voit beaucoup les pieds des gens, on voit beaucoup des sols.
Mais c'était parce que c'était le cadrage qui l'intéressait ou parce que
finalement... je ne peux pas me prononcer là-dessus, c'était une forme de je pense de modestie, de réserve de sa part, une manière d'aborder les gens parce qu'elle les abordait très facilement par ailleurs. Mais de les aborder d'une manière qui ne soit pas agressive pour eux, voilà. Enfin, c'est une démarche assez étrange et dans ces images.
C'est presque de la radio, remarquez.
Pardon.
C'est presque de la radio finalement.
Oui, enfin, dans ces images qu'elle a faites, il y en a plusieurs heures hein, pendant notre voyage, le premier donc à Savannah et à Milledgeville. On ne voit pas bien sûr que des sols, on voit toutes sortes de choses, mais on voit énormément de sols. Et d'ailleurs, c'est pas, enfin, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ça n'est pas du tout ennuyeux ou inintéressant, puisque on voit par exemple à Savannah ces racines absolument magnifiques des arbres qui font péter le revêtement des trottoirs. On voit beaucoup de mauvaises herbes ou de plantes qui poussent dans les interstices auxquels Kate était particulièrement attachée. Bon. Et puis on voit quand même aussi des gens de temps à autre, bien. Mais enfin donc j'insiste sur le fait qu'elle a Kate avait fait par ailleurs pour la télévision un film sur Philippe Jean, etc. Mais c'était pas fondamentalement c'était une photographe. Bon. Donc nous avons fait ce voyage ensemble en 2007. Elle en est revenue avec ce projet qui donc n'a jamais abouti de faire un film. Il est très difficile de dire d'ailleurs si les rushs, enfin les images qu'elle avait faites à cette occasion dont je viens de parler, avaient un rapport avec le film qu'elle envisageait, je ne sais pas. Bon, elle est morte en 2013 et donc moi je suis retourné, je ne sais plus, en 2014 je pense, bon, où j'ai essayé de refaire très exactement tout ce que nous avions fait lors de ce voyage ensemble, bien. Et avec une... enfin, je n'ai fait qu'une entorse à cette règle qui était de... J'ai pris un autocar, ce que nous n'avions pas fait, entre Savannah et une ville qui s'appelle Macon. Macon, qui est la ville desservie par les Greyhounds, la plus proche de Milledgeville.
Oui, voilà. C'est une petite ville, Milledgeville, et d'ailleurs, c'est, je crois, 17 000 habitants, et c'est d'autant plus étonnant quand on lit que, quand vous êtes parti avec Kate, dans l'avion, il y avait un numéro de Libération qui évoquait cette ville.
Oui. Je n'ai pas retrouvé cet article, j'aurais pu sans doute, mais... En fait, je m'en foutais un peu, mais j'ai constaté que oui, quand le jour où nous avons pris l'avion, le numéro de Libération que Kate lisait dans l'avion, il y avait un article sur un barbier de Milledgeville. Je ne sais pas si c'était justement un personnage digne de Flannery, c'est-à-dire qui avait assassiné Père et Mère.
Il y a une nouvelle qui s'appelle Le Barbier.
Oui, c'est exact. Il y a une nouvelle qui s'appelle Le Barbier. Bon, enfin là, c'est plutôt pour flétrir, si j'ai bonne mémoire, les intellectuels de gauche. Voilà. Oui, je précise à ce sujet que justement, on l'a dit, hein, mais je crois que quelqu'un a parlé d'indulgence. Alors, de Flannery, c'est une qualité dont elle me semble assez dépourvue. C'est un auteur d'une férocité extraordinaire, Flannery, quoi. Et quand on dit chrétien, aussi, les gens disent, ah, chrétien, ça doit être édifiant. C'est pas du tout édifiant. Du tout. Non, c'est pas du tout édifiant. Et ce que Flannery décrit, c'est quand même plutôt l'homme tombé, quoi, l'homme chu. Et moi, je suis entré, je veux dire, dans Flannery. Je pense, d'ailleurs, grâce à Geneviève Brisac et à son petit livre, moi, je précise qu'au départ, il était dans la collection L'un et l'autre de Pontalis
chez Gallimard. Il était réédité ensuite à l'Olivier. Voilà.
Et j'ai lu ce livre que j'ai trouvé formidable. Moi, ça m'a donné envie de lire Flannery O'Connor. Et j'ai commencé par pour moi, ce qui est le plus beau texte de Flannery, mais aussi le plus terrible, qui s'appelle Les Boiteux entreront les premiers.
Qui est une nouvelle tirée de Mon mal vient de plus loin.
Mon mal vient de plus loin. Et il y a une chose quand même qui m'a beaucoup frappé, moi. C'est par rapport à d'autres auteurs catholiques, comme Graham Greene, par exemple. Dans Graham Greene, on voit quand même la grâce efficace, je puis dire, on voit dans...
Ah bah, Graham Greene, c'est efficace,
hein. Oui, mais dans La puissance et la gloire, par exemple, on voit ce prêtre absolument déchu qui, quand même, à la fin, va se livrer aux gens qui vont l'assassiner pour sauver une âme. Bon, donc il y a quand même quelque chose d'exaltant, quelque chose qui fait...
C'est l'aventure, aussi. Mais,
alors que dans... Moi, je trouve quand même la lecture de Flannery O'Connor particulièrement désespérante. Quoi. Et là, dans cette nouvelle dont je parlais, la volonté, et c'est presque toujours le cas dans Flannery, la volonté de faire le bien entraîne des conséquences absolument catastrophique. Et je trouve que c'est une dimension très importante. Et de la même façon, pour parler de choses de plus actuelles, il y a dans la nouvelle où des gens généreux veulent accueillir des réfugiés vraisemblablement de Pologne ou de Hongrie. Bon, ça se termine également par triple meurtre, écrabouillage. Enfin bon, bref, c'est quand même à l'auteur d'un pessimisme absolument incroyable et qui à aucun moment n'encourage à faire le bien.
Pessimisme, mais en même temps, ce sont des nouvelles qui vous conduisent à vous interroger sur votre rapport à la foi. Si vous avez la foi, mais j'imagine que c'est pas forcément le cas d'ailleurs.
Non, moi, ça va même plutôt à m'interroger sur le mal, quoi, sur la puissance du mal et sur, Guy Goffet le dit, de jamais elle ne transige avec le malin qui mène le monde à sa perte. Bon, voilà, oui, on sent ce qu'on sent dans Flannery O'Connor, c'est la puissance du mal, quoi, et la difficulté de le déjouer. Alors, à part ça, au-dessus, je corrige. Enfin, par ailleurs, c'est très drôle. Bon, c'est très drôle, mais elle-même, d'ailleurs. Mais elle-même se délectait de sa propre méchanceté, puisque dans L'habitude d'être, justement, elle dit qu'elle se gondole en relisant ces trucs, tellement, en relisant ces nouvelles, tellement c'est méchant, quoi, tellement c'est méchant et tellement c'est drôle. Mais c'est très féroce. Enfin, l'extrait là, qu'on a lu tout à l'heure de Greenleaf là, est quand même d'une férocité extrême. Bon, bref, voilà. Enfin, là, je m'éloigne un peu de du voyage.
Revenons-y alors justement à ce voyage. Qu'est-ce que vous avez vu de Flannery O'Connor au cours des deux voyages que vous avez faits?
Moi, j'étais absolument guidé par Kate dans cette affaire. Je connaissais au demeurant assez bien l'œuvre de Flannery, mais je n'aurais pas eu de moi-même l'idée de... Je fais assez peu de pèlerinage littéraire. Je n'aurais pas eu l'idée d'entreprendre ce voyage, tout de même relativement lointain, pour retrouver des traces de Flannery. Donc, c'était vraiment une idée de Kate. Et donc, dans ce voyage que nous avons fait ensemble, je l'ai suivi tout le temps. C'est elle qui prenait des initiatives. Et donc, c'est comme ça que j'ai vu ce qui était d'un intérêt médiocre, dire la maison natale de Flannery, sauf que c'est une très jolie place de Savannah, qui est certainement une des plus jolies villes, une des plus muséales des États-Unis. Bon.
Où elle n'a
et
pas
puis
écrit,
après, surtout, ce qui s'est manqué tenait absolument à voir la ferme de Andalusia, sans quoi elle avait raison. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant et qu'on comprend possiblement plus de choses de Flannery quand on voit cette ferme. Et donc, comme nous ne savions conduire ni l'un ni l'autre, et comme les bus Greyhound, comme je l'ai dit, ne desservent pas Milledgeville, s'arrêtent à Mâcon, on a dû trouver un arrangement avec un chauffeur de taxi plus ou moins clandestin, enfin de taxi au noir, voilà, bon, hein, qui était un personnage absolument formidable, noir, qui s'appelait Willy, et donc finalement, le voyage avec Willy est devenu l'aspect principal de cette affaire. Quoi.
C'est un personnage à la Flannery O'Connor.
Oui, c'est un personnage à la Flannery O'Connor. Oui et non, parce qu'il est, c'est quand même Willy est un personnage extrêmement positif, quoi, extrêmement avec énormément d'humour, mais très positif, plus positif que la plupart, plus édifiant donc de ce point de vue que la plupart des personnages de Flannery O'Connor.
Vous êtes féroce alors, comme Flannery O'Connor.
Non, lui n'était pas féroce, c'était un homme indulgent, contrairement. Non, c'était un type extrêmement indulgent et extrêmement drôle. Il était très caustique, mais il n'était pas féroce.
Carson, Flannery and Jean are now sitting together in the green grass of an unknown paradise. They turn into peaceful angels, their worries have all gone. The voyage in the darkness is far behind. Their hearts are no longer lonely hunters. Good man is not hard to find. They wake me up with their laughter. Their souls dance over my mind. They often knock on the gate of my days.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Flannery O'Connor avec Jean Rollin et du chauffeur de taxi qui vous a conduit jusqu'à la ferme de Flannery O'Connor, la ferme de Andalusia, hein, c'est ça, et qui vous a dit il y a que des fous à Milledgeville.
Oui, c'est la réputation de cette ville, mais d'ailleurs Flannery le dit aussi dans ses lettres. Et bon, ses lettres sont drôles souvent, pas toujours, mais souvent. Et elle dit à une correspondante, peut-être à Gabrielle Rollin, d'ailleurs qu'on a mentionné tout à l'heure, qui était devenue une de ses amies françaises. Mais, qu'en gros, c'est une ville merveilleuse, qui a un asile de fous, un pénitencier, je sais plus quoi encore. Enfin bon, elle cite deux ou trois choses, comme ça, d'une compagnie plus ou moins agréable. Et donc, il y avait effectivement il y a peut-être toujours, je me suis pas renseigné là-dessus, un asile de fous. Quoi qu'il en soit, cette ville a la réputation, effectivement, mais je pense que c'est aussi une caractéristique du sud des États-Unis que je connais pas bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de barges et que le Milledgeville, qui est un trou, enfin, toute proportion gardée, parce que c'est quand même une petite ville désormais assez moderne, même parfois fâcheusement moderne, avec supermarchés, choses de ce genre. Mais ça a la réputation, d'après Willy, en tout cas, de compter un nombre anormalement élevé de dingues.
Et d'oiseaux, un sanctuaire pour oiseaux.
Oui, elle dit un sanctuaire pour oiseaux. Oui, il y a des oiseaux. Ça, c'est Flannery qui le dit. Mais alors après, est-ce que véritablement cette ville comporte un plus grand nombre de fous que telle ou autre ville de la même taille dans la même région? Je n'en sais rien. Mais en fait,
vous direz que non. Il s'est rendu compte qu'il y avait autant de fous dans sa région en Belgique, en France, partout.
Il y a une forme de folie religieuse et prophétique qui est en effet plus prégnante dans le sud des États-Unis que le. Que dans d'autres parties du monde.
Et alors cette ferme, vous y arrivez et que voyez-vous?
Oui, la ferme. Alors déjà, ce qui est assez frappant, c'est que je disais que dans Milledgeville, si folle soit-elle, n'a pas échappé à la modernité. Donc là, On sort maintenant de Milledgeville et on se trouve en fait au milieu puis de supermarchés, de trucs, de malls, mais enfin on y est. Là, si d'ailleurs il y a un gisement, il y a des concessionnaires automobiles avec des tas des vitrines avec des bagnoles neuves dedans, etc. Donc on se demande où une ferme va se nicher là-dedans et en fait, paf, on prend un petit chemin non revêtu d'ailleurs sur la gauche, assez mal indiqué. On avait eu quelques difficultés d'ailleurs en ville à se faire indiquer l'endroit où se trouvait la ferme. Et là, il y a une sorte de réserve. Enfin, c'était le terrain de cette ferme qui était assez vaste a été, semble-t-il, intégralement préservé. Et donc, on se trouve avec des bruits autoroutiers un peu dans tous les sens, mais enfin, on se trouve quand même dans quelque chose qu'on peut appeler la campagne. Et avec cette maison, qui est triste, quoi. Quelque chose de funèbre, enfin, comme souvent, vous voyez, des maisons inhabitées, muséifiées, qui ont abrité un artiste au destin, en plus, assez tragique dans le cas de Flannery O'Connor. Cette petite maison, avec des rocking chairs qui grincent, même quand on ne s'en sert pas, dans une grande véranda. Et puis, sur la gauche, en entrant, immédiatement, la chambre de Flannery, qui est également l'endroit où elle écrivait, puisqu'elle ne pouvait pratiquement plus se mouvoir dans la dernière partie de sa vie, la partie où elle a peut-être écrit d'ailleurs le plus de choses. Donc il y a là une toute petite chambre avec un petit lit, c'est une paire de béquilles, quelques symboles religieux, mais finalement très peu, très discrets. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre à voir dans la maison. Voilà, il y a deux dames qui tiennent cette boutique, qu'il y a quelques souvenirs aussi.
Des gallinacées
Alors oui, il y a toujours, on a conservé cette tradition d'élevage des paons. Donc il y a toujours des paons. J'en ai rapporté une plume, d'ailleurs.
Ah, seulement la plume.
Oui. Parce que comme chacun sait, ils les perdent, donc on n'a pas besoin de les leur arracher. Quelqu'un a dit tout à l'heure, souvent c'est vous qui avez dit qu'elle aimait les gallinacées, ça là aussi c'est une façon de parler, elle les décrit quand même en termes tout à fait infamants. Bon,
elle en a beaucoup autour d'elle.
Oui, non, mais à la fois elle les trouve comme tout le monde, quand ils font la roue magnifique, et en plus elle y voit, entre autres choses, les yeux innombrables de l'église, etc. Mais bon, elle les décrit quand même comme des imbéciles féroces, eux aussi. Bon, ceux qu'ils sont apparemment.
Oui, elle a de la tendresse,
elle a de la tendresse parce que là aussi ils sont drôles. Ils sont drôles parce qu'ils vont systématiquement se percher là où ils ne devraient pas, etc., etc. Parce que, bon, bref. Mais donc, il y a toujours des pans. Il y a toujours des pans. Et puis, il y a ce terrain qui s'étend tout autour, qui est magnifique. C'est extrêmement beau. C'est un terrain vallonné avec il y a un étang. J'ai un peu oublié le détail. Il y a des buses, en effet, qui planent au-dessus. Et j'ai aussi, alors là, c'était, bon, je sais pas, j'ai vu ça comme une espèce de signe, pourtant je suis un peu superstitieux d'ailleurs, mais sans plus. Enfin, oui. J'ai trouvé une plume gigantesque, d'une couleur assez laide d'ailleurs, brunâtre, et que j'ai identifié après de manière absolument certaine comme une plume de dindon sauvage. Bon. Pas de dindon d'élevage. Aux États-Unis, ils ont des dindons sauvages, comme on sait, et chacun sait aussi que le dindon est présent dans l'œuvre de Flannery, notamment dans une des premières nouvelles, je crois, de jeunesse, où un gamin pourchasse un dindon qui finit par attraper, qui se fait faucher après par des petits voyous.
Alors vous avez fait aussi quelque chose qui aurait plu à Flannery O'Connor, c'est que vous êtes allé à l'église, vous êtes allé à la messe, Jean Rollin.
Oui, c'est exact. Oui, j'ai été à la messe dans l'église, je crois qu'elle s'appelle Saint-Jean en plus.
Là où était baptisé.
Là où était baptisé Flannery. Oui. J'y étais toujours pour les mêmes raisons. J'y étais parce que Kate avait tenu à y aller. Kate avait probablement des sentiments religieux plus développés que les miens. Bon. Et donc j'ai voulu y retourner. Et il se trouve que je suis entré au début d'une messe et que je trouve très gênant. Enfin, je suis toujours assez choqué par les gens qui se promènent dans les églises ou d'autres lieux de culte pendant que s'y déroulent des cérémonies. Moi, je suis entré, ça commençait, donc je suis resté. Voilà. Et donc, en effet, j'ai assisté à une messe du dimanche dans cette église.
Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout baptisé. Parce que vous n'avez pas communié.
Oui, je dois dire ça, en effet. Oui, c'est exact. Oui. J'ai un peu oublié, mais enfin, je sais que je n'ai pas communié, certes, mais j'avais oublié que je l'avais noté.
Merci beaucoup, Jean Rollin, pour ce récit de votre voyage qui vous lie donc, vous aussi, de façon intime, à Flannery O'Connor. Je rappelle qu'il s'appelle Savannah, ce récit, et qu'il a été publié en 2015 aux éditions POL. La semaine prochaine, nous revenons en France et nous faisons un bond en arrière dans le temps pour passer la semaine avec rien moins que Victor Hugo. Mais tout de suite, eh bien c'est la poésie sur France Culture avec Jacques Bonnafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Nous retrouvons nos deux lectrices qui peut-être ne sont l'image que d'une seule lectrice, hein, deux corps, l'une plongée dans un livre, l'autre plongée dans l'écoute, sur les peintures de Fantin-Latour qui sont le motif de la lecture. La lecture, c'est le livre des poèmes de Jan Beatens. La lecture à deux est solitaire. Mais la chambre fermée est une chambre ouverte. La page choisie n'est pas la page qu'on a choisie, mais il y a une main, il y a un gant, ils vont ensemble. La voix qui parle n'est pas celle qu'on entend, mais la voix qui continue. Le livre contient des lettres qui ne sont pas lues, des lettres cachées entre les lettres, des lettres cachées entre les pages. Il ne suffit pas de détourner le regard pour ne rien dire. Une table vide, une page blanche, rien ne manque. Respiration artificielle. Dans le train qu'elle avait pris, tout le monde lisait, se cachant derrière les mots et les titres qui cachent les mots et les titres qu'on est seul à voir quand on lit dans un train. Les mêmes pages et les mêmes titres des mêmes livres où on saute les descriptions de paysages, les digressions, les résumés des chapitres à venir, les mots et les bouts de phrases déjà lus ailleurs. Tout ce qui n'est pas question-réponse ou légende des illustrations où le regard s'attarde plus longuement que l'arrêt en gare, plus fixement que sur le livre abandonné par un autre voyageur et qu'on emporte. Lire, dit un autre poème, lire c'est couper le fil entre le verbe partir et le verbe arriver. C'est ranger les mots des femmes dans les poches des hommes et se tromper de vestiaire le temps d'un vol où on cherche le nom du souvenir à oublier. C'est commencer à lire seulement quand on a fermé le livre, quand les gestes se transforment en phrases, faciles à faire, impossibles à faire une fois de plus, ne conduisant à rien sauf à leur fin, et qu'il reste encore ce nouveau départ. Personne ne veut de ses doigts sur les livres, toujours prêt à couper les pages qui nous blessent. Le temps qui te reste et le temps qui est déjà passé, le temps qui passe et le temps qui t'est compté, le temps que tu comptes, mais seulement à rebours, tous ces temps qui font le temps et qui font que le temps est ce qui passe et ce qui compte, ce qui ne reste pas, tous ces temps, lis-tu, n'existent pas dans le livre, qui n'est pas le livre que tu lis et dont tu veux la fin autant que le retour, que tu peux oublier avant même la fin, qui fait toujours comme s'il parlait du temps. Mais le livre n'est pas comme une fleur, il n'est pas habillé de noir. Noir qui se réfère à la robe que portent ces femmes, ces belles femmes sur les peintures de Fantin-Latour. Et voici le dernier poème du livre qui n'est pas comme un baiser volé, mais un baiser posté. Pour chaque regard qui s'ouvre chaque matin, à l'attente d'une page, une porte quelque part et peut-être pour de bon se ferme. Et la nuit tombe en plein jour, sans surprise, comme les autres jours. On écoute les regards qui se déshabillent dans le noir. On regarde la face cachée de la pomme, le trognon de serrure. On apprend par cœur les mots qui se ressemblent comme les deux mains, c'est-à-dire les deux gants et les deux livres de l'ami qu'on n'a pas.
Merci Jacques Bonnafé, vous lisiez donc des extraits du recueil de poésie de Jan Beatens intitulé « La lecture ».